Bonjour la Méditerranée, les Méditerranéens, les Méditerranéennes et puis tous ceux que nous continuerons à appeler les Cantariens et qui, eux, sont partout. Vous êtes bien à l'écoute du magazine interméditerranéen Cantara, un espace radiophonique unique, fruit de la collaboration de 6 radios.
Cantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Bleu RCFM, Radio Le Caire, SNRT Radio Rabat, Radio Liban, RTCI Tunis et Radio Exterior de España.
Et pour entrer en matière, le chanteur basque Mikel Erentzun revient avec un CD en solo. Je vous propose de découvrir La Vereda, autrement dit le sentier, le chemin.
Abiertas de par en par, escupen canciones de fuego. Las marionetas en el guiñol repiten los mismos gestos. Hay cambio de guardia en el circo, perfumes en el tocador y un bosque deshabitado para los dos. Libros baratos en el desván, son tiempos de revolución. Guerra de lazos en el callejón, se enredan los sentimientos. El viento brama con furia, se tensa la piel del tambor. Las huellas en el horizonte me llevan a ti. Hoy es ayer. Los condenados aguardan en el salón. El cielo puede esperar, pero yo no. Hoy es ayer.
Et comme toutes les semaines, cap sur la Corse pour découvrir la revue de presse méditerranéenne que nous concocte Pierre-Louis Alessandri depuis son observatoire de Bastia.
Regard sur la presse méditerranéenne. La revue de presse.
L'Europe a voté pour renouveler son Parlement et les éditorialistes des différents pays, dans leurs analyses, notent que le raz-de-marée des populistes et des europhobes n'a pas eu lieu, même s'ils réalisent une poussée importante. Si l'ancienne majorité ne retrouve pas ses marques, les libéraux et les centristes constitueront les groupes forts du nouveau Parlement, d'où seront issus vraisemblablement des nouveaux responsables. La surprise vient aussi de la participation, que l'on n'attendait pas à ce niveau, 50%, même s'il faut noter qu'un Européen sur deux n'a pas voté. Enfin, cette élection consacre la montée des écologistes, notamment en Allemagne, quand ce matin titrait « Une Europe plus verte ». Dans les pays méditerranéens de l'Europe, les résultats sont contrastés. En France, la presse souligne la victoire du Rassemblement national d'extrême droite et la défaite du président Macron, qui s'était personnellement impliqué dans cette élection. C'est une claque que reçoit le président de la République française, qui voit donc sa politique contestée encore plus par les urnes, même si l'écart n'est pas très important. En Espagne, le premier ministre socialiste Sanchez gagne encore en force. Le PSOE s'impose dans les élections, mais la droite gagne Madrid, titrait El País le lendemain du vote. En Espagne, ce scrutin regroupait aussi celui des municipales et des régionales. Le titre du journal conservateur ABC est plus critique. L'Espagne refuse de donner tout le pouvoir au sanchisme et évoque la défaite pour la gauche de Madrid. Le PS gagne les trois élections, mais la débâcle de Podemos réduit son triomphe, écrit encore le journal. La Vanguardia fait lui son titre sur la victoire de l'ERC indépendantiste de gauche qui conquiert Barcelone, et le journal catalan El Punt Avui salue en son titre la victoire historique de RC. Manuel Valls, par contre, n'a pas réussi à conquérir la mairie de Barcelone. L'ancien premier ministre français est relégué à la quatrième place. C'est un échec cuisant et la presse espagnole et française s'en fait l'écho. En Italie, par contre, les sondages ont tenu leurs promesses. En ce qui concerne Matteo Salvini et sa Ligue, qui totalise 34%, mais il n'avait pas prévu que le Parti démocrate centre-gauche dame le pion au mouvement 5 étoiles, qui était il y a un an encore le premier parti de gouvernement et qui passe au second rang et au troisième sur le plan national. Ça risque de créer quelques remous au sein du gouvernement italien, mais la Repubblica reprend en titre la déclaration de Salvini. Le contrat de gouvernement ne change pas. Enfin, en Grèce, la presse titre sur la défaite du parti du Premier ministre de gauche face aux conservateurs. Alexis Tsipras a donc décidé d'organiser des élections législatives en juin. Et puis, élection toujours. Après l'annonce du maintien des élections présidentielles au 4 juillet, l'Algérie manifeste à nouveau. Dans les rues des villes, les slogans hostiles à Gaïd Salah fleurissent. El Watan fait le tour des manifestations et des slogans. À Alger, on crie « Gaïd Salah dégage ». À Tlemcen, ni Washington ni Paris, c'est nous qui élirons le président. À Chlef, on rejette la feuille de route du régime. Et puis pour terminer, allons un peu sur la Côte d'Azur. Sur la croisette de Cannes, les starlettes ont rangé leurs décolletés, les stars leurs robes de soirée et leurs costumes noirs. Les promeneurs ont retrouvé le calme quotidien et la Méditerranée continue à rouler ses vagues sur une plage désertée par les VIP. Le festival de cinéma le plus célèbre au monde a fermé ses portes réservées après avoir popularisé son palmarès. On attendait l'Espagnol Almodóvar et ce fut le Sud-Coréen Bong Joon-ho qui a raflé la Palme d'Or avec son film Parasite. Douleur et gloire de Pedro Almodóvar se contentera du prix d'interprétation masculine qui est revenu à Antonio Banderas. Bong Joon-ho, Parasite le festival, c'était le titre de Nice Matin et c'était bien vu.
Un Coréen qui a pris tout son monde à contre-pied et pour l'Espagne, qui d'ailleurs continue à idolâtrer Antonio Banderas, un très beau festival. Pour tout le monde, une grande perplexité. Devant la fiction, pas tout à fait fiction, de Abdellatif Kechiche, le film Maktoub My Love, Intermezzo, qui a été vu comme un hymne ringard au machisme arriéré, une espèce de post-machisme et qui en plus durait 3 heures. Passons rapidement et arriba Banderas. « Voici venue la saison des grands déplacements. Et nous ne parlons pas seulement de tourisme. D'autres grands voyageurs se lancent sur les autoroutes d'Europe, Espagne comprise d'ailleurs. Des familles entières d'immigrés qui retrouvent leur pays d'origine, leur ville ou village écrasé de soleil, comme le chante ou le chantait Enrico Macias. La communauté marocaine émigrée en Europe est importante et pour les vacances, sa destination phare reste bien sûr le Maroc. Pour permettre le transit de centaines de milliers de personnes vers les ports du sud de l'Andalousie, les autorités espagnoles mettent en place depuis des années l'opération Paso del Estrecho, traversée du détroit. Les autorités marocaines, pour leur part, lancent l'opération Marhaba, bienvenue. Et pour ce faire, les deux pays se concertent. Nadir Abelkhotout depuis Rabat.
Les vacances, c'est pour bientôt. L'été annonce chaque année un retour massif des Marocains résidant à l'étranger. Et chaque année, l'opération Marhaba, bienvenue, renouvelle ses dispositions pour assurer un bon retour et séjour aux Marocains de la diaspora. Des aires de repos sont installées partout depuis l'Espagne, en passant par les ports et aéroports, afin d'assister les familles dans leur voyage. Quoi de neuf cette année pour l'opération Marhaba 2019? Khalid Zerouali, directeur de l'immigration et du contrôle des frontières, nous en parle.
عندنا مع الجانب الإسباني كاع النقاط اللي يمكن تكون ضرورية أنها تعالج.
On a exposé avec la partie espagnole tous les points susceptibles d'être traités. Il y a des assurances côté espagnol qui a pris des mesures pour permettre la qualité du transit. L'opération a connu l'année dernière et connaîtra cette année des heures de pointe à l'occasion de la fête de l'Eid al-Kbir, le point culminant étant la dernière semaine du mois d'août. Par conséquent, une opération de communication et de sensibilisation est prévue pour éviter les heures de pointe, sachant que des mesures ont été prises au niveau des deux parties marocaines et espagnoles pour assurer la fluidité du trafic pendant les heures de pointe. Il y a un point important qui concerne les voyageurs en bus à la lumière des mesures prises par les autorités du port d'Algeciras et qui risquent de causer des désagréments aux voyageurs. On a exposé le problème devant la partie espagnole qui a exprimé sa compréhension et a promis d'apporter une meilleure solution au problème du transit terrestre.
Que dire de plus que souhaiter bonnes vacances et bonnes retrouvailles à tous. Bon retour aussi. Nous allons au Caire à présent, mais cette fois, si ce n'est pour répondre à une question cruciale pour l'avenir du monde arabe, c'est du moins pour lancer un débat d'idées. Car il y a une question cruciale qui hante la quasi-totalité de l'intelligentsia arabe préoccupée du développement de son pays. C'est comment le monde arabe peut-il sortir de son état de stagnation, de sous-développement, pour s'engager immédiatement dans la modernité. Les tentatives ont été nombreuses. Pourtant, le marasme, la stagnation reste de mise. Et de fait, le développement matériel clinquant étalé par certains n'est finalement qu'un mirage. Que faire ? L'invité de Dinar Abdelmegid, le professeur Issam Abdelfattah, s'est heurté à cette question et cherche à y répondre.
Les penseurs arabes éprouvent un conflit déchirant entre deux choses. Le désir acharné de propulser leur société aux degrés les plus élevés dans l'échelle du progrès et la résistance farouche de leur société, voire leur hostilité à leur ambition légitime. On a vu dans la réalité de nombreux courants intellectuels s'efforcer de semer dans leur société les graines de la modernité, mais leurs efforts ont tous été voués à l'échec. Ces courants ont pris par la suite des parcours différents. Certains d'entre eux, armés d'une volonté de fer, sont déterminés à brûler les étapes pour atteindre leur but, quel qu'en soit le prix. D'autres, désespérés, ont par contre choisi de se séparer une fois pour toutes des sociétés occidentales, bien qu'ils fussent à un moment donné de fervents partisans. D'autres encore ont radicalement changé de peau. Après avoir longtemps arboré l'étendard de la Renaissance et de la modernité, ils ont subitement changé de camp pour s'y opposer diamétralement et devenir même des figures endurcies du fondamentalisme radicalisé. Or, notre question du début nous impose de répondre à une autre question corrélative. Pourquoi toutes les tentatives visant à arracher les Arabes à leur retard civilisationnel, en leur promettant une renaissance semblable au siècle des Lumières, ont toutes avorté? Selon le philosophe égyptien Mourad Wahba, tout progrès a son point de départ, non dans le passé, ni dans le présent, mais dans le futur. Mais comment? Tout commence avec l'émergence, dans le présent, de nouveaux problèmes dus à l'évolution constante de la réalité. Problèmes que la raison se trouve incapable de surmonter au moyen de ses solutions habituelles. Alors, elle se met à élaborer de nouvelles conceptions et méthodes permettant de résoudre les problèmes émergents. En d'autres termes, le changement de la réalité commence dès la mise en œuvre d'une nouvelle vision permettant de surmonter les obstacles du présent et de faire monter la société dans l'échelle du progrès. Autant dire que la raison humaine procède tout d'abord à la remise en cause de ses propres méthodes traditionnelle qu'elle employait vis-à-vis des problèmes du passé. Puis, elle en développe d'autres, plus pertinentes et plus efficaces. Pour appliquer la méthode proposée de Mourad Wahba, il faudrait tout d'abord signaler qu'elle exige un changement profond dans le mode de pensée. En d'autres termes, le changement du présent nous impose préalablement de le soumettre à une critique rigoureuse pour relever ses vulnérabilités et les entraves qui en résultent. Pour Mourad Wahba, ces entraves tiennent à ce que la raison humaine est en proie à une illusion obsédante. Elle s'imagine pouvoir s'emparer de la vérité absolue, illusion qui le porte à combattre toute autre thèse opposée à la sienne. Avec le temps, ces idées prises pour absolues se transforment peu à peu en un tabou sacré qu'il est catégoriquement interdit à la raison critique de mettre en question. D'où l'impossibilité de toute évolution réelle. Il est évident que le salut de la raison consiste à se guérir de ses illusions. Pour ce faire, elle aura à penser le monde et ses objets dans leurs propres limites, c'est-à-dire en tant qu'ils sont relatifs et en respectant ses propres limites et capacités. C'est exactement la méthode que l'Occident a adoptée dans son évolution vers la modernité, la méthode de la pensée séculière ou de la pensée critique développée. Certes, la modernité de l'Occident eut ses pages noires dans l'histoire, puisqu'elle fut accompagnée des guerres coloniales qui portèrent un coup dur à la mission des Lumières et de la Renaissance. Cependant, la raison occidentale n'a jamais tardé à critiquer les dérives accompagnant les Lumières, sans jamais mettre en doute leurs effets positifs sur l'humanité jusqu'à nos jours. Revenons à notre question du début. Le monde arabe aura-t-il de fortes chances d'entrer dans la modernité occidentale s'il s'engage dans un processus de sécularisation de manière à pouvoir en un temps court brûler les étapes déjà traversées par l'Occident?
Une question lancinante en effet. Même si elle n'est pas spécifique au monde arabe, la sensation que l'on rate tous les trains pour l'avenir a été celle vécue par des générations d'intellectuels espagnols également. Si bien que la perte de la dernière colonie américaine de l'Empire, Cuba, en 1898, avait été vécue comme une véritable catastrophe nationale et impulsé le mouvement régénérationniste, un mouvement multiforme, touchant des espaces divers, renouant avec l'histoire de ceux qui, de manière isolée, comme des chercheurs des siècles antérieurs, ou de manière collective, comme les illustrés de la fin du XVIIIe et début du XIXe, injustement traités de afrancesados, pratiquement de collabos, avaient tenté de faire tirer le pays de sa somnolence. Pour revenir au monde arabe, peut-être que seule une action volontariste pourrait changer les choses en commençant par les méthodes d'enseignement dès le plus jeune âge, apprendre à apprendre, pas apprendre à mémoriser, discuter, raisonner au lieu de reproduire. Professeur Abdel Fattah, un grand débat que vous lancez là.
اكتشاف موسيقي
hallazgo musical
hallazgo musical okay a musical discovery
India Martinez a surgi sur la scène musicale espagnole comme une véritable touche-à-tout flamenco Copla, mais aussi Rai avec Cheb Khaled et son hindou et latin, partant donc de l'idée aussi que les gitans sont originaires de l'Inde. Ici, elle se fait terriblement féministe. Elle lance un véritable cri de guerre contre les discriminations et les violences faites aux femmes. India Martinez, la gitana.
¿Y a ti quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Oh, tú ten cuidado con lo que digas. Cuidado. Que a mí nada se me olvidó. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. A mí la niña no me da más guerra, tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Dice que me quiere luego me maldice, dice que cosa que se contradice, dice, pero yo no dejo que me pise, pise. Así que empieza la jugada, tú a mí nunca me verás arrodillada. Y lo que te falta de ética, mi zona genética, me sale la gitana.
Me sale la gitana.
Cántara, nuestro programa intermediterráneo.
Sharif Majdalani est libanais, écrivain, collaborateur de publications aussi prestigieuses que L'Orient le Jour, El Nahar, mais aussi Le Monde ou encore Libération. Oui, vous avez deviné, avec toutes ces informations que je vous donne, il ne pouvait être que l'invité de Nanette Ziadeh. Il nous parle ici de vie possible. Lui que les vies, les récits de vie, les autobiographies et autres mémoires de vie intéressent depuis toujours. Pour preuve, pour sa thèse, il avait choisi de travailler sur Antonin Artaud. Excusez du peu, mais je vous laisse plutôt écouter.
Sharif Majdalani, auteur franco-libanais et président de la Maison internationale des écrivains à Beyrouth, est l'auteur de 5 romans, traduit dans 6 langues. Son dernier en date s'intitule « Des vies possibles » et s'intéresse au XVIIe siècle.
C'est le siècle par lequel la modernité commence, en fait, la modernité dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, puisque c'est le siècle où commencent les grandes découvertes scientifiques et notamment tout ce que Galilée et Copernic avant lui avaient trouvé, et qui conditionne évidemment toute la suite de l'histoire de l'humanité et surtout de la conscience humaine. C'est-à-dire que pour la première fois, la conscience humaine est ébranlée dans ses fondements, puisqu'on découvre que la Terre est... tourne autour du soleil, c'est pas le contraire, que l'univers entier est comme ça, un immense vide dans lequel la Terre est balancée, donc la place de Dieu se trouve problématisée, si on veut dire. Donc c'est une époque de grand ébranlement de la conscience humaine, de grandes découvertes scientifiques. C'est aussi l'époque non seulement où on regarde les astres, mais on commence à dessiner la carte du monde tel qu'il est réellement, c'est-à-dire que le monde se construit progressivement sous les yeux des gens, dans les atlas, etc. Donc c'est vraiment une époque de changement, de bouleversement radicaux. Et l'autre chose qui me plaît, me fascine dans le XVIIe siècle, c'est la peinture. C'est une époque où la peinture a été... Bon, pour moi, c'est une grande époque de la peinture, avec la peinture vénitienne, romaine, et puis la peinture française. Et puis, les deux ensemble font que cette époque est une époque de grands changements. Et moi, dans tous mes livres, c'est là où ça rejoint aussi les autres bouquins.
C'est aussi une époque de grande richesse intellectuelle. Hein.
Voilà, mais c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Intellectuelle, artistique et donc une époque de grands changements aussi, de bouleversements. Et ça, ça m'a toujours intéressé, les époques de transition comme ça.
Alors, ton personnage, Raphaël, est riche en évolution, lui aussi. Il va prendre l'ascenseur social, se destiner à une carrière intellectuelle, nous emmener en voyage de Rome à Venise pour arriver à Amsterdam, en passant par d'autres contrées. Le voyage reste très important dans tes ouvrages.
Ce n'était pas le but, en fait, mais progressivement, je me suis aperçu que pour raconter cette époque-là, il fallait aussi faire bouger le personnage. Mais en fait, c'était un personnage qui ne s'était pas lui-même destiné à une carrière de... Il a été
envoyé,
voilà,
effectivement.
C'est quelqu'un à qui on a imposé un destin, qui est parti tout jeune. Et qui s'est rebiffé, en fait. Il ne voulait pas du destin qu'on lui traçait à l'avance. Il a voulu se faire lui-même. Très vite compris, en revenant à la première fois, qu'il n'avait plus de famille, qu'il n'avait plus d'ancrage, que le pays où il était né ne se souvenait même pas de lui. Et donc, il s'est retrouvé comme étant quelqu'un qui n'avait plus aucun ancrage, qui ne savait plus qui il était ni d'où il venait. Et qui a dû tout se refaire. C'est quelqu'un qui cherche une place dans le monde à une époque où le monde est en plein transformation.
Mutation. Alors, mais ce qui est intéressant chez Raphaël, il va se détourner du destin qu'on lui avait justement dessiné pour le prendre en main. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Non, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, ça devrait pouvoir être donné à tout le monde, puisque chacun est quand même totalement libre de prendre en charge sa vie.
Ouais, justement, tu vas parler du libre arbitre après dans le livre.
Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu la question. Et surtout à cette époque, en fait, c'est l'époque où on se posait des questions, notamment sur la question de la liberté de l'homme et de la manière avec laquelle il était conditionné ou pas, par ce que la religion imposait. Et donc c'est quelqu'un qui, bon, évidemment j'en ai fait un personnage essentiellement brillant et qui s'aperçoit qu'il est au-dessus du coma à l'époque, mais qu'il est déjà en soi envoyé à Rome par le clergé maronite parce qu'on sent qu'il est intelligent et il fait des études, et les études qu'il fait lui permettent de prendre conscience de certaines choses qui, notamment, d'abord, elles vont lui faire prendre conscience qu'il n'est plus rien, avant de l'aider à se construire une véritable vie et un destin.
Pour revenir à quelques détails du livre, par exemple, quand il prend les lunettes de Galilée, il s'interroge sur sa condition humaine, tout en étant heureux de lui appartenir quelque part. D'où peut-être le titre « Les vies possibles » et une possibilité de changer son destin.
La lunette était à l'époque, c'est la grande découverte de Galilée qui a permis de regarder le ciel. Et notamment de découvrir que le ciel était vide, vide dans tous les sens du terme, c'est-à-dire vide, vide matériellement et vide d'une véritable présence de Dieu. Et donc on a interdit aux hommes de regarder le ciel. Mais Raphaël, comme c'était courant probablement à cette époque-là, il a quand même réussi à se procurer une lunette, on pouvait regarder quand même les astres, même si ça pouvait être un petit peu dangereux. Mais au lieu de continuer à regarder le ciel, il a braqué la lunette sur la terre et il s'est mis à regarder plutôt la vie quotidienne des gens.
Alors justement, on était parti pour parler du destin et quelque part tu poses cette question, est-ce que nos destins sont le fruit du hasard ou est-ce qu'on peut agir dessus?
Oui, alors ça c'est la question.
La grande question.
Évidemment, la grande question que lui se pose, que tout le monde se pose de toute façon. Mais alors j'ai fait le pari de la lui faire poser au XVIIe siècle, c'était tout à fait probable, possible, plausible, on va dire. C'est qu'on est libre quand même dans la limite de ce que les hasards de la vie et les aléas de la vie nous imposent.
Alors, il y a dans les vies possibles de la poésie, une poésie qui découle largement, évidemment, de l'univers artistique dans lequel ce roman se déroule. C'est l'époque des grands maîtres, on l'a dit tout à l'heure, et puis c'est ce mélange de fiction et faits historiques. La poésie plante un très beau décor sur un processus d'écriture très différent de celui auquel tu nous as habitués. Hein. Cette fois-ci, c'est des petits chapitres, des sortes de miniatures qui s'emboîtent et qui font qu'on n'a pas le temps de se lasser, qu'on est déjà catapulté dans un autre univers.
Oui, j'ai changé, j'avais envie en fait. Depuis pas mal de temps, j'avais envie de faire quelque chose de plus court, de plus ramassé, avec des tout petits chapitres, dans une espèce de tempo différent des autres. Et là, j'avais envie depuis longtemps, en même temps, de rompre avec cette habitude et cette façon que j'ai de décrire et de faire quelque chose de beaucoup plus ramassé et de beaucoup plus avec des silences, si tu veux. C'est ce que j'ai fait là, c'est-à-dire transformer la forme. Mais en réalité, c'est une forme qui reste quand même très influencée par celle que j'ai toujours utilisée, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on retrouve, même si ça paraît différent.
Un XVIIe siècle ou un monde qui s'ouvre sur l'avenir, un monde de transition, un monde peut-être aussi malchanceux, qui a bien conscience que l'autre prend le large, prend de la distance, et puis la possibilité malgré tout de se forger un destin, d'aller de l'avant. Un sujet libanais presque en écho au sujet égyptien cette semaine, même si, à première vue, il n'y paraît pas. Une balade sur les traces du grand Massinissa, le grand roi numide, cela vous dirait-il? En fait, Mayed Sili fait bien mieux que cela. Elle nous fait parcourir l'histoire de l'Afrique du Nord depuis la proto-histoire à l'époque byzantine, en passant par l'époque libico-numide, l'époque romaine, et elle nous emmène vers un lieu unique, Douga.
Chers auditeurs de Kantara, je vous emmène cette semaine visiter Douga, le site archéologique le plus prestigieux de la Tunisie. Plusieurs facteurs concourent à conférer au site de Douga une place à part dans le panorama archéologique tunisien. Son emplacement d'abord sur la riche vallée de la Mejrda, l'étendue du site qui s'étale sur plusieurs dizaines d'hectares d'oliviers, plusieurs fois centenaires qui l'entourent, et bien entendu l'excellent état de conservation de la plupart des monuments qui le composent, dont certains, tels le Capitole ou le Théâtre, ont été remis sur pied au cours d'une campagne menée au lendemain de la Première Guerre mondiale par des prisonniers de guerre. Véronique Brouquier-Rédé est chercheuse, archéologue, docteur en histoire et civilisation de l'Antiquité. Elle encadre depuis 20 ans des fouilles et prospections archéologiques sur le site de Douga.
C'est un site magnifique avec donc des vestiges très très bien conservés. Douga est le seul site en Afrique qui a conservé entre 25 et 35 sanctuaires, soit connus par les vestiges, soit connus par l'épigraphie. Alors la première fréquentation du site en fait est attestée par deux squelettes qui sont datés entre 1740 et 1529 avant notre ère. Puis à l'époque proto-historique, on a des dolmens, donc vers 1500-1400. Et malheureusement, en fait, c'est des domaines, on n'a pas d'attestation vraiment par le matériel de cette époque. En fait, on a une occupation beaucoup plus tardive de l'époque numide. Alors, c'est un site de référence pour l'époque numide et aussi par l'épigraphie libyque et punique, car il y a des bilingues qui ont été trouvés et qui ont permis de déchiffrer la langue libyque. Donc, Douga est essentiel pour l'époque numide, avec toute l'architecture, le style éolique, et également donc par les 2000 à 3000 inscriptions latines qui donnent des notions sur toutes les institutions et l'évolution du site de Douga.
Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas uniquement une architecture romaine qu'on voit sur le site, il y a aussi des aspects puniques et numides.
Oui, donc là, nous sommes en train de travailler justement sur cette période, à la fois à la nécropole nord, où il y a des monuments circulaires et des mausolées. Donc, on a découvert un nouveau mausolée qui fait référence au grand mausolée donc, que tout le monde connaît, le mausolée d'Akban, qui est dans la nécropole sud. Et également des monuments circulaires qu'on appelle basina, qui sont une architecture hellénistique et qui a livré du matériel du 3e, 2e siècle avant notre ère.
Donc aujourd'hui, s'il y a un monument qui est le plus important sur ce site, ce serait la tombe d'Akban. Ou est-ce qu'il y a d'autres...
Alors, le mausolée est un cénotaphe. On n'est pas sûr qu'il y ait un squelette à l'intérieur.
D'accord.
Puisque il y a eu un démontage et il n'y a pas eu véritablement de fouilles. Donc, c'est en fait un monument funéraire, sans doute sans squelette à l'intérieur. Douga a une importance justement parce qu'il y a le Magdès de Massinissa, donc une inscription qui mentionne donc sur l'Agora. Donc on a trouvé les vestiges, identifié les vestiges sur le forum de Douga. Et Jean-Claude Golvin a fait une restitution plus ou moins sur le modèle du monument de Chemtou que tout le monde connaît, qui est restitué au musée de Chemtou.
Ce site est un site unique en Tunisie, en Afrique du Nord. Qu'en est-il de sa conservation? Comment vous jugez sa conservation aujourd'hui? La prise de conscience par rapport aux habitants qui sont aux alentours du site?
C'est le seul temple, le Capitole, qui est conservé jusqu'au sommet. Enfin, il y a aussi ce bête-là. Mais parmi les capitoles, c'est quand même l'un des plus prestigieux. Donc la restauration avait commencé au début du XXe siècle, comme le mausolée qui avait été démonté, et certains monuments, comme le sanctuaire de Célestis. Et dans les années 2006-2008, il y avait eu un projet FSP, donc avec la France, qui avait permis de refaire une mise en valeur du forum. Donc l'état actuel, c'est le résultat de nos recherches avec Jean-Claude Golvin sur le forum, donc on avait restitué les bases des colosses. Donc actuellement, nous travaillons sur la périphérie du site et nous espérons que les sanctuaires de Saturne ou de Minerve II fassent partie du circuit des visiteurs.
Des dolmens jusqu'aux fortifications byzantines, toutes les étapes de la progression de l'histoire de l'Afrique antique sont illustrées sur le terrain par des monuments de belle facture, des édifices qui se placent parmi les plus élégants ou les plus achevés du bassin méditerranéen, tels le Capitole, le théâtre, le mausolée libéco-punique ou les superbes demeures patriciennes. Douga a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité et érigée en parc archéologique national à visiter absolument.
Madrid, où s'est tenue une importante rencontre internationale sur les femmes, Maria Dolores Albiach a décidé de s'intéresser plus particulièrement aux femmes de l'autre rive.
Les dernières années, des réformes législatives ont amélioré la situation des femmes arabes. Les changements légaux de certains pays du nord de l'Afrique et du Moyen-Orient tentent de réduire la violence contre les femmes par exemple, la suppression de mesures comme le mariage du violateur qui annule le délit de viol, et aussi d'améliorer son égalité dans les codes de famille et la charia. Où nous en sommes ? Une trentaine de juristes, parlementaires, académiques, juges et activistes de 8 pays arabes et de l'Espagne l'ont analysé depuis 2017 et présenté maintenant les conclusions à Madrid. Convoqué par l'Agence de coopération de l'Espagne et son programme spécial Massar pour le Nord et le Moyen-Orient, ils ont étudié en profondeur les possibilités et limites dans l'égalité des femmes de ces réformes sous la méthodologie et coordination de l'Université Complutense de Madrid et l'appui du Arab World Legal Network qui rassemble des juristes et siège en Jordanie.
Shukran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sayyida Aina Calvo, مديره الوكاله الاسبانيه للتعاون الدولي لاجل التنميه. السيده الفاضله جميله
Alla Beishola Touf, ancienne ministre d'affaires sociaux de Jordanie, Jamila Debek, parlementaire tunisienne, et Aïda Calvo, directrice de l'Agence espagnole de coopération, ont fait la présentation. Malgré les grands changements pour réduire la discrimination et soutenir le rôle féminin en première ligne, l'inégalité entre hommes et femmes, c'est encore un défi dans tout le monde, et aussi dans les pays arabes. Mais selon la description générale de l'étude, où la religion est majoritaire, la justice fréquemment a une base éthique des textes sacrés de l'islam, avec deux approches envers les femmes, soit le protectionnisme, soit l'égalité. Un 37% des femmes arabes ont souffert la violence envers elles. Au moins un 14% ont vécu le mariage précoce. 133 millions de femmes ont souffert la mutilation génitale féminine dans le monde. Et même que c'est une pratique interdite en Mauritanie ou Égypte, les taux sont de 62% et de 91% respectivement. Et dans des zones rurales en Mauritanie, la pratique touche presque le 100%, 97% des femmes. Et ces défis ont beaucoup à faire avec une représentation seulement du 17% de femmes dans les gouvernements et d'un 23% de parlementaires. Dans les 8 pays du Moyen-Orient ou du nord de l'Afrique, entre 2011 et 2016, 4 ont des nouvelles constitutions, Maroc, Mauritanie, Tunisie et Égypte. Et de plus, ont fait des changements constitutionnels, comme la Jordanie et l'Algérie. Mais la loi fondamentale coexiste avec des codes pénals, civils, des familles ou de les statuts personnels qui font partie ou sont inspirés dans la jurisprudence islamique, ce qui donne des inégalités envers les femmes sur le mariage, le divorce, les droits d'héritage, les mariages infantiles ou la transmission de la nationalité. Mais les récentes réformes arrivent aussi aux lois secondaires et des pratiques ancestrales, comme par exemple le pardon ou l'acquittement du processus contre un violateur s'il se marie avec la victime. Ça a été abrogé au Maroc, Liban, Jordanie ou Tunisie. Mais Algérie garde la clause du pardon qui évite le jugement. Même 3 pays, Jordanie, Liban et Tunisie, ont approuvé une loi contre la violence envers les femmes dans le foyer et dans 4 de plus, Égypte, Maroc, Mauritanie ou Palestine, la loi est en discussion, tandis que Algérie s'est inclus dans le code criminel.
Sabah al-khair lakoum jami'an. Bonjour. Shukran sayyidati ala a'ta al-kalima. Sayyida mudirat.
Avant que Jamila Debek, parlementaire tunisienne, parle, l'ancienne ministre d'Affaires sociaux de la Jordanie, Hala Beycho Latouf, a souligné l'incorporation au travail comme le principal défi des femmes arabes et détaillé que les quotas ont permis une hausse de représentation avec presque un tiers des parlementaires et même 42,7% des femmes dans les conseils locaux de son pays. À part les changements dans le code pénal, l'incorporation à la sécurité sociale et l'arbitrage des congés de paternité, mais aussi à réclamer un rôle majeur des femmes dans la sécurité et la paix dans une région où au moins deux conflits sont ouverts, la Syrie et le Yémen, avec des graves conséquences humanitaires. Pour sa part, Jamila Debek, parlementaire tunisienne, dans son pays, a souligné que les listes à glissière ont arrivé presque à la parité. Mais les défis continuent à être économiques et d'éducation. Pour la parlementaire, les changements sont insuffisants, mais on construit le futur petit à petit. Et les mesures législatives, par soi-même, ne changent pas rien s'ils ne sont pas accompagnés d'un appui social et d'un rôle majeur de la société civile.
Tu as moissonné l'espoir. Grand fut le vertige de ta passion. Puissant sera celui de ta décision. Et l'alarme de ton cœur derrière tes dents. Yatounis, écoute l'appel au devant. Yatounis, écoute l'appel au dedans. Yatouns, écoute l'appel au devant.
غلاف العروق يزي ما عشنا اللوطة زعما قول لي شفما الفوق
ويا ما فاتل فوت راك ما زلت تتعلم الدنيا هذه دروس وانتي رتبة لك تسلم
مانيش باش نسلم ايماني بروحي قوي ندافع على حق وحق بلادي مادامني حي
هذا المفيد نحب نحارب سنديدة تونسنا تطيح ونقوم ونبنيوها من جديد
انا تونسي انتي تونسي كل توانسة متحدين جابيلا لونيتي يطفل يد اخوات صامتين واقفين كوم دي سولدا ضد الخونة والقعدة صاي تونس راهي حرة وعاد الظلم لازمو يتعدى
Demandons martyrs, c'est pas facile de partir, il faut agir et foncer, finir ce qu'on a commencé. Liberté, solidarité, démocratie, à consommer sans modération en Tunisie.
Kantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Bleu RCFM. Radio Le Caire, SNRT Radio Rabat, Radio Liban, RTCI Tunis et Radio Extérieure d'Espagne.
C'était le 34e Kantara de cette saison. Des questionnements, des invitations au voyage, des plongées dans l'histoire et un monde en devenir. Vous êtes bien entendu invités à donner votre opinion, à exprimer vos suggestions, particulièrement d'ailleurs sur le débat lancé par le professeur Abdel Fattah. soit à travers la page Facebook Cantara, soit en nous écrivant directement un petit message à frances@rtve.es. J'appelle frances@rtve.es. Technique à Madrid se trouvaient Elias Rouri et Miguel León qui nous proposent cette musique pour finir. À très bientôt, à la semaine prochaine.